sûr, c'est pas rassurant de savoir qu'il y a la guerre pas très loin, qu'en plus il y a encore le Covid qui continue, le salaire, tout ça qui suit pas forcément, l'inflation, non. Là tout de suite, avoir 20 ans, c'est pas très fun, on va dire.
Avoir 20 ans en ce moment, c'est pas très fun, dit cette jeune femme interviewée hier par l'une de nos équipes. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est aussi très peu joyeux quand on a 30, 40, 50, 60, 70 ans ou davantage. Après la crise sanitaire, nous avons sous les yeux une guerre. Bonjour Ilios Kotsou.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, spécialiste en intelligence émotionnelle et enseignant à l'ULB. Est-ce que c'est normal de se sentir un peu mal en ce moment, de se sentir angoissé, Ilios Kotsou ?
On pourrait même dire que c'est sain et naturel de se sentir angoissé. Ça serait étonnant de ne pas l'être. Quand on voit la peur est une émotion essentielle et importante pour la survie. Alors on peut la distinguer d'une forme d'anxiété qui souvent se caractérise par la peur de choses qui ne vont peut-être jamais arriver. Une invention là, on a une menace réelle. Le Covid a vraiment tué des personnes. Mmh. La guerre est vraiment à nos portes. Mmh. Et donc, il est tout à fait naturel d'avoir peur. Alors, le problème, c'est que lorsque la peur, elle est comme l'inflammation dans le système immunitaire. Lorsqu'elle est activée pendant trop longtemps, alors le système se dérègle et on finit par tomber en anxiété. Et lorsqu'on a en même temps la menace et l'impuissance, ça peut nous amener dans un état qui est proche d'une forme de déprime et même de dépression.
Comment différencier la peur de l'angoisse, Ilios Kotsou ?
Alors c'est la question, est-ce qu'il y a vraiment des raisons réelles ? Est-ce qu'il y a un danger réel ? Et là, je pense que c'est difficile de dire qu'il n'y a pas un danger réel. Alors la question, c'est jusqu'où notre tête va nous dire que quelque chose de mauvais pourrait nous arriver, mais les menaces sont vraiment là. Hein, on pourrait rajouter à ce que vous avez dit, l'environnement. On
a bien sûr
l'environnement, la Covid.
Il y a eu un rapport du GIEC qui a été publié en début de semaine.
Exactement.
Qui n'est guère rassurant.
Et donc nous voilà confrontés, pas seulement en tant que citoyenne, mais en tant que nation, et puis en tant qu'humanité, face à des menaces. Avec nous, en tant que citoyenne, citoyen, on ne sait pas très bien quoi faire. Et donc déjà, la première chose, le premier point à souligner, c'est que avoir peur, c'est quelque chose de normal, et c'est même quelque chose de sain.
Et donc on se rassure déjà ce matin en se disant « ça va en fait, je suis un être humain normal parce que j'ai peur ».
Oui, et si j'ai peur, c'est que je suis sensible, c'est aussi parce que j'ai de l'empathie. Et lorsque je vois ces images à la télévision, je m'identifie évidemment à ces femmes, à ces hommes qui fuient en dessous des bombes. Et l'empathie est une émotion essentielle. On peut se dire que pour une société qui fonctionne à long terme, que ce soit chez les primates, ou chez nous, il faut de l'empathie. C'est essentiel l'empathie. Sans empathie, il n'y a pas de société qui survit. Mmh. Alors, à côté de l'empathie seule ne suffit pas parce que on peut avoir une fatigue de l'empathie à un moment. Mmh. À force de voir des images, on peut être désensibilisé. Et la question, c'est comment, après l'empathie, il y a une forme de bienveillance qui, elle, ne se fatigue pas. Mmh. Alors, c'est difficile, évidemment. Comment est-ce que je peux agir, moi, en tant que citoyenne, alors que j'ai l'impression de ne rien pouvoir faire? Mmh. Il y a deux grands points d'attention.
Ce sentiment d'impuissance, il est très partagé, hein.
Très partagé. Et il y a des points d'attention à voir lorsque il y a la peur et qu'il y a l'impuissance, se rendre compte que l'empathie, elle est sélective. Et on le sait, si on va étudier le cerveau, notre cerveau, lorsqu'on est confronté à la douleur de quelqu'un, on l'a étudié scientifiquement, notre empathie s'active prioritairement pour les groupes qui sont les groupes proches de nous. Alors c'est important, si on veut construire, peut-être qu'on est en train de construire un nouveau grand récit européen et peut-être mondial d'entraide, qui sait, de coopération, ça serait génial si c'est ça. Si cette terrible guerre malheureuse nous permet de construire ce récit-là, de ne pas exclure quelqu'un. On a vu quelques images aussi en Ukraine de personnes, pour des couleurs de peau et ainsi de suite, qui semblaient ne pas avoir le même traitement que d'autres. Et donc c'est important de se rendre compte, et à nouveau, c'est normal, notre cerveau va sélectionner prioritairement ceux qui nous ressemblent, à nous d'y être attentifs et se dire, dans une situation comme celle-ci, il y a une commune humanité. Nous sommes tous interdépendantes et interdépendants.
Je ne prêche pas pour ma chapelle en vous posant cette question, mais est-ce qu'arrêter de s'informer, couper le robinet du flux continu et assez sombre de l'actu, c'est une solution, Ilios Kotsou ?
Alors c'est difficile à dire parce qu'en même temps, il me semble qu'en tant que citoyen et citoyen, être informé est essentiel. De savoir ce qui se passe, surtout dans un monde où on a la chance ici d'avoir une information libre. À nouveau, ça souligne, comme dans d'autres pays, on le voit en Russie, il n'y a pas d'information libre, donc la population ne sait peut-être même pas ce qui se passe. Mmh. Et donc comment nourrir notre empathie si on ne sait pas ce que vit l'autre ? Donc ça me semble terrible de dire « je vais me couper de l'information ». Et en même temps...
Mais certains se disent ça quand même. Pour aller mieux, moi j'arrête de regarder le JT, je coupe la radio.
Est-ce que j'irais vraiment mieux ? Parce que nous avons besoin de partager, comme Bernard Rimet l'a montré, nos émotions. Alors peut-être que plutôt que nous couper complètement, ça serait de dire je vais équilibrer et je vais nourrir l'autre côté. Donc on a besoin de nourrir notre aussi le côté imaginaire, on a besoin aussi de nourrir le côté de la joie, de la gratitude et ainsi de suite. Et c'est très concret, c'est pas quelque chose de, voilà, c'est pas du New Age, du blabla comme ça. Dans la situation du 11 septembre aux États-Unis, une étude a montré que des personnes qui, juste pendant cette situation-là, pouvaient nourrir la gratitude et l'amour, étaient les personnes les mieux remises après. Donc, elles ne pouvaient pas nier, là, il n'y avait pas moyen de se couper. Mais par contre, la question, c'est qu'est-ce que je fais ? Et donc, c'est comment est-ce que je peux porter attention aux personnes qui aident ? Comment je peux aider là où je suis, que ce soit par une pétition, par le fait même de m'asseoir et de me dire... Vous savez, l'idée d'envoyer...
Passer à l'action, c'est une piste, un chemin pour aller mieux, pour quitter la peur, pour quitter l'angoisse ?
Pour quitter l'impuissance. Et donc passer à l'action comme je le peux, et même si c'est prendre soin des personnes autour de moi. Et il y a une loi dans la psychologie humaine qui est « ce que tu nourris grandit ». Évidemment, si je ne nourris que la peur, elle va grandir, mais je peux à côté, dans une forme de lucidité, contribuer à nourrir autre chose à côté. Nourrir l'entraide, nourrir la gratitude, nourrir une société qui est celle que je veux voir advenir, même si, aujourd'hui, en allumant la télévision, en allumant la radio, j'ai surtout l'information anxiogène d'une société dont je ne veux peut-être pas.
Pour se sentir mieux, il faut peut-être aussi consulter, méditer, aller se promener en forêt. Ce sont des conseils qu'on entend régulièrement. Vous en dites quoi, vous, Ilios Kotsou ?
Oui, alors je dirais, dans les premiers, bien sûr, le lien social, c'est le plus important pour nous. Et donc, c'est partager ça avec des personnes. Bien sûr, marcher en forêt, oui, et se rendre compte, au fond, de l'interdépendance et du lien qui nous unit aux autres personnes, à la nature. Alors, ne jamais avoir honte de consulter, c'est pas une fragilité, on est tous vulnérables parce que nous sommes humaines et humains. Et bien sûr, le fait de méditer, en soi, peut être une action non pas naïve, en se disant... La paix à long terme, c'est aussi parce qu'on va cultiver, on va la cultiver, c'est une culture de la paix dont on a besoin, c'est une éducation à la paix mondiale dont on a besoin.
Oui, mais méditer, donc, on le fait pour soi, non ? C'est pas une démarche un peu égoïste, il y a
alors, ça peut avoir l'air, et ça peut être fait comme ça, ça peut être aussi, je m'assieds parce que c'est la seule chose que je peux faire, et je vais en moi cultiver la paix, en d'autres mots, je vais devenir la paix que je veux voir dans le monde. Et au fond, si la paix, je ne peux pas l'installer ici, si dès que je sors parce que quelqu'un un jour a un accent russe ou une couleur de peau qui me dérange, je vais le stigmatiser. Il me semble difficile de dire oui, mais alors on va créer la paix dans l'Europe et dans le monde.
Mais si vous et moi nous sommes paisibles, c'est pas pour autant que ça va aller mieux pour les Ukrainiens.
Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et donc ne séparons pas les deux, ne soyons pas naïfs et naïfs. Et en même temps, si vous et moi ne sommes pas paisibles, qu'est-ce qui va faire que nos chefs d'État, femmes et hommes, soient plus paisibles ? Qu'est-ce qui va faire que dans une situation où nous avons des choix importants à faire en tant que société, nous faisons les bons choix ? Et donc, nous sommes une société, ce sont aussi des femmes et des hommes. Et donc, la paix, me semble-t-il, doit être travaillée à tous les niveaux. Ne soyons pas naïfs à nouveau, bien sûr, mais sans paix au niveau de l'individu. Si la paix ne naît pas dans le cœur de chacune et de chacun pour devenir une culture de la paix au niveau mondial, je ne vois pas tellement comment on va faire autrement que recommencer encore et encore. Et Harari, je pense qu'il ne semble pas être le dernier des naïfs. Il tient quelque part le même discours. Bien sûr, de manière plus argumentée que moi, mais j'ai l'impression que ce qu'il dit, c'est ça aussi. On est dans un moment charnière de voir que veut-on faire, que veut-on incarner en tant qu'humanité. Et ça, on commence à l'incarner dans nos familles.
Qu'est-ce que l'on dit à nos enfants, Ilios Kotsou?
Alors si j'avais la réponse, nous on a une fille aussi qui a 7 ans, ça serait simple évidemment, mais c'est comment j'ai l'impression d'arriver, et il n'y a pas de leçon ici, hein, moi j'essaie de m'en sortir comme tout le monde, en même temps ne pas lui cacher des choses, et en même temps ne pas lui dépeindre un monde terrible. Parce que ce que j'ai envie de nourrir en elle...
En même temps c'est terrible ce que l'on voit.
C'est vrai, et donc elle est consciente, et j'ai même pas besoin de lui dire, parce que l'empathie chez nos enfants elle est très forte. Mais c'est comment on peut aussi nourrir en eux cet amour de l'humanité, et montrer ce qu'il y a de beau, parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, on voit énormément de comportements d'entraide, de générosité et altruiste, et ça, elle les voit aussi. Et donc, elle peut voir un monde qui brûle, c'est vrai, mais elle peut voir un monde où il y a des personnes qui aident énormément.
Je reprends les mots de cette jeune femme que nous avons entendue il y a quelques minutes, qui dit avoir 20 ans en ce moment, c'est pas très fun. Est-ce que c'est d'autant plus difficile quand on a 20 ans d'être face à de tels événements ? On a parlé de la crise sanitaire, on parle de l'urgence climatique et puis de cette guerre en Ukraine, Ilios Kotsou.
Je crois que oui, puisqu'on se construit. On se construit de différentes manières, par les imaginaires qu'on nous offre, qu'est-ce que la société nous offre comme vision d'un futur désirable, et par les expériences et les relations. Et ces moments ont quelque part réduit la possibilité d'échange. Il y a eu moins de voyages, moins de rencontres, et aujourd'hui c'est toujours le cas. Et puis l'imaginaire qu'on offre aux futures générations, de se dire quel est le monde désirable possible auquel ils et elles aient envie de participer, il est drôlement réduit.
C'est que nous, les êtres humains, nous avons besoin d'un horizon, de voir devant, de voir l'avenir, et si possible, d'avoir un horizon un minimum éclairé.
Oui, et c'est aussi pour ça que la culture est tellement essentielle, parce qu'elle participe à ça. Et c'est ce qui est dommage, c'est que dans les moments les plus terribles, on a d'autant plus besoin de quelque chose qui paraît accessoire comme la culture, parce qu'elle participe à nous lier et à nous offrir une histoire commune. Et sans histoire commune, à nouveau, nous sommes des êtres de récit et de coopération. C'est ce qui explique que nous soyons toujours là. Et sans la coopération et le récit qui nous donne envie d'aller de l'avant, on peut finir dans l'impuissance et la détresse.
Le retour d'une vie paisible où on est moins malmené par les événements du monde, il faut l'espérer ?
Alors oui, en même temps, il faut l'espérer. Et je pense qu'en partie, on a besoin de ça et de ne pas être tout le temps attentif à tous les malheurs de la planète.
Et
en
et
même
si temps, on veut être lucide.
Voilà, je pense qu'on n'aura pas le choix. À partir de maintenant, je pense qu'il y a des choses qui ont basculé pour toujours. Si je pense à l'environnement, ce n'est pas demain qu'on va pouvoir se dire, voilà, tout à coup, on peut vivre autrement. Quand on pense aux inégalités, et ainsi de suite, ce n'est pas demain qu'on va pouvoir vivre autrement. Et donc, ce sera une question pour les générations futures. Comment nos enfants vont-ils faire pour vivre dans un monde où il y a des menaces qu'on ne va pas pouvoir effacer, ni oublier, ni ignorer?
Il nous reste une minute et j'ai une dernière question à vous poser, Ilios Kotsou. Peut-on être heureux quand ça va mal dans le monde?
Alors à nouveau, il est tout à fait normal de ne pas être heureux, et ça dépend de ce qu'on appelle bonheur, mais je pense que justement, c'est dans ces moments-là qu'il est important de se centrer sur ce qui nous donne envie d'aimer la vie, et de l'aimer même si, comme dit notre ami Renaud, parce que tout va mal, c'est vrai, et en même temps, c'est là qu'il est important de se dire, mais qu'est-ce qui donne de la valeur à nos vies? Qu'est-ce que je peux soigner aujourd'hui? Et on sait dans ces études dont j'ai parlé, c'est que pour désactiver le système de la peur qui nous amène à l'agression, on a besoin de ce système de l'affiliation et du lien qui nous amène à prendre soin. Mmh. Aimer la vie et l'aimer même si. Voilà, l'horizon est incertain et très difficile pour beaucoup d'entre nous, et plus encore pour ceux qui sont en Ukraine et ailleurs.
Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin, Ilios Kotsou. Je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste en intelligence émotionnelle, également enseignant à l'ULB. Bonne journée, Ilios Kotsou.
Merci.
Il est 7h24 sur